Chapitre 15. Les envahisseurs étaient minces, mais des muscles saillaient sous leur peau verdâtre parfaitement lisse. Selon Nathan, les Selkas étaient des humains modifiés pour devenir des armes aquatiques. Ces êtres cependant semblaient avoir oublié depuis longtemps leur humanité. Leur bouche ouverte en grand, ils aspiraient de l'air avidement, comme s'ils avaient perdu l'habitude de respirer à la surface. Une membrane transparente recouvrait leurs yeux écarquillés en quête de proie. Le long de leur dos, un aileron dentelé s'ajoutait aux nageoires de leurs bras et de leurs jambes. Pris dans la tempête, le randonneur était plus vulnérable que jamais. Déjà menacé de mort par les éléments, l'équipage devait en plus affronter une horde de monstres. En appelant à l'aide, des matelots rampaient sur le pont pour aller récupérer des harpons et des crochets. Trois Selkas leur foncèrent dessus, rapides comme des poissons rouges dans un bassin. Karl, le vieux loup de mer, brandit un harpon et tenta de se défendre. Hélas, dans sa panique, il avait choisi celui à la pointe détruite par l'acide des méduses. Avec ce qui ne valait guère mieux qu'une massue, il combattit pourtant comme un lion. Il assomma le premier Selka, du sang jaillissant de ses branchies. Quand les deux autres furent sur lui, il frappa des poings et des pieds, mais un des monstres le ceintura et l'autre lui ouvrit le torse, dévoilant ses côtes et son sternum. S'unissant, les deux Selkas arrachèrent les organes du pauvre type dont les cris cessèrent très vite. Toujours près de Nathan, Nietzsche luttait pour recouvrer ses esprits et trouver en elle assez de magie pour se battre. Rongée par le poison, elle s'était épuisée contre Sol et ses complices. Attaquer les Selkas? Pas question jusqu'à nouvel ordre. Entêtée, elle essaya pourtant de générer une boule de feu. Mais le vent qui se déchaînait autour d'elle lui cingla le visage et l'arracha à sa concentration. Les yeux pleins d'eau salée, elle les essuya, puis se fia à sa colère pour retrouver un peu d'énergie. Enfin, des étincelles crépitèrent au bout des doigts de sa main droite. Les yeux rivés sur la magicienne, un Selka bondit au moment où elle lançait une boule de feu. Percuté de plein fouet, le monstre s'embrasa et poussa un étrange cri qui résonna jusque dans ses branchies, à la base du cou. Touché à mort, il tituba puis s'écroula. Bannon sauta de la fusée de vergue, son épée au poing. Terrifié, il semblait pourtant prêt à se battre. Nathan l'aperçut quand il se mit en chemin pour les rejoindre, Nietzsche et lui.
« Fiston, souviens-toi de ce que je t'ai dit !»
D'autres Selkas prenaient pied sur le navire pour fondre sur les défenseurs. Armés de harpons, deux colosses firent face. En taillant leur chair couverte de limon, ils blessèrent trois monstres, mais une quinzaine d'autres leur sautèrent dessus. Héroïques, les marins luttèrent jusqu'à ce que des mains griffues leur arrachent leurs armes puis les retournent contre eux. Abattant son épée dès qu'il voyait une cible, Bannon avançait sur le pont sans perdre l'équilibre. Solide, ayant un tranchant bien affûté, le bras d'un attaquant s'envola dans les airs. Sans marquer de pause, Bannon coupa le cou d'un autre Selka. Une deuxième boule de feu de Nietzsche calcina un monstre qui tentait de prendre le rouquin à revers. En hurlant, la créature sauta par-dessus bord. Bannon se retourna, cligna des yeux, puis cria à Nietzsche un merci qu'elle devina sans l'entendre. Alarmés par les cris de leurs camarades, les marins arrivaient enfin sur le pont. Dès qu'ils aperçurent les monstres, ils crièrent à leur tour pour alerter les occupants des ponts inférieurs. Bientôt, une bonne partie de l'équipage se pressa devant une écoutille, résolue à défendre jusqu'à la mort le navire. Voyant d'où venaient les renforts, les Selkas tentèrent de les abattre à la source. Alors que sa tête émergeait à l'air libre, un marin réputé pour son art de repriser les voiles fut saisi à la gorge par un attaquant qui le tira dehors, puis lui enfonça ses dents triangulaires dans le cou. Coincé, le matelot battit des bras et des jambes tandis que son bourreau les ventrait, aspergeant de sang les marins qui gravissaient l'échelle de coupé. Quand il fut fatigué de ce jeu, le monstre lâcha sa victime et s'engouffra dans l'écoutille, repoussant les renforts. Si les ponts inférieurs étaient envahis, tout serait perdu. Sous la pluie et les embruns, quatre Selkas chargèrent Nietzsche. Malgré ses entrailles douloureuses, elle se répéta qu'elle avait été une sœur de l'obscurité et gardait en elle le pouvoir de plusieurs sorciers. Poison ou pas, elle était plus forte que tous les adversaires que ces créatures avaient combattus. Avançant d'un pas, Nathan leva les mains et tenta d'invoquer sa magie. À sa posture et à son expression, Nietzsche devina qu'il préparait un sort majeur. Alors que 10 nouveaux Selkas enjambaient le bastingage, Nathan voulut les bombarder de lances de feu et ouvrit de grands yeux quand rien ne se passa. Puis il agita les mains, sans plus d'effet, tandis que les Selkas fondaient sur lui.
« Nathan !»
cria Nietzsche. Le vieux sorcier insista sans obtenir de résultat. Stupéfié, il ne semblait même pas penser à avoir peur. Juste à temps, Bannon le rejoignit et abattit son épée sur le premier Selka. Après en avoir tué un autre, il se tourna vers le sorcier.
« Si vous avez besoin de secours, je suis là !»
Les yeux baissés sur ses mains, Nathan marmonna
« Du secours, moi ?»
De nouveau, Nietzsche se demanda si le vieil homme avait été empoisonné. Épuisée par son dernier sortilège, elle tremblait de plus en plus, mais une sœur de l'obscurité ne connaissait pas l'épuisement face à une horde d'agresseurs. Dans un coin, un marin blond souleva un tonneau vide et le jeta sur un Selka. Esquivant le projectile, le monstre ceintura son adversaire, mais tous deux furent emportés par une énorme vague. Jetant un coup d'œil à l'océan, Nietzsche ne vit pas réapparaître la tignasse claire du pauvre type. Une seconde plus tard, Ellie sortit de la salle des cartes.
« Des Selkas !»
cria-t-il comme si ce n'était pas la première fois.
« Saloperie, filez de mon bateau !»
Un coutelas au poing, le capitaine brandissait une longue massue, dont il se servait pour caresser le dos des marins indisciplinés. Résolu, il avança vers les Selkas. Dès qu'ils l'eurent identifié, les monstres convergèrent vers lui. Sans broncher, il tint son terrain et frappa avec ses deux armes. Fendant l'air, le coutelas trancha net une main palmée. Bien entendu, ça ne découragea pas les Selkas. La massue fit éclater quelques crânes et brisa pas mal de dents, mais une créature finit par la saisir à deux mains et l'arracher à son propriétaire. Submergé par le nombre, le capitaine continua à frapper avec son coutelas, mais sa propre massue, maniée par un attaquant, s'abattit sur son poignet et le brisa net. Contraint de lâcher sa lame, Ellie dut battre en retraite dans la salle des cartes. 10 Selkas s'attaquèrent à la porte verrouillée, la défoncèrent et se ruèrent dans la pièce. Les cris du capitaine furent vite suivis par le bruit des hublots qui se brisaient. Jeté dans le vide, le cadavre d'Ellie s'écrasa dans l'eau. Avide de festoyer, ses bourreaux plongèrent à sa suite. Pendant que Nathan luttait en vain pour recouvrer l'usage de son don, Nietzsche utilisa toutes les armes dont elle disposait. Avec un mélange de magie additive et soustractive, elle fit pleuvoir des éclairs noirs sur les Selkas. Frappé au cœur, l'un d'eux se désintégra.
« La magie !»
gémit Nathan.
« Ma magie a disparu !»
Il essaya encore, les mains tendues, mais rien ne se passa.
« Disparu !»
cria-t-il foudrage. Nietzsche n'eut pas le temps de s'apesantir sur le sujet. Avec l'énergie du désespoir, elle parvint à invoquer du feu de sorcier. Dès que la boule fut assez grosse entre ses mains, elle la lança. En sifflant dans l'air, l'énergie dévastatrice fondit sur 4 Selkas qui encerclaient un marin. L'homme cria puis se tut très vite, réduit au silence en même temps que ses agresseurs. 5 vies rayées du monde en une fraction de seconde. Le feu de sorcier, presque inaltéré, traversa le pont, carbonisa plusieurs tonneaux, puis embrasa le bastingage et la coque. Par bonheur, la pluie et les vagues éteignirent l'incendie, pas le feu de sorcier lui-même qui avait fini par se dissiper, mais les flammes qu'il laissait dans son sillage. Sans pouvoir estimer combien de force il lui restait, Nietzsche se prépara à combattre encore, car des Selkas affluaient toujours. 3 silhouettes vacillantes émergèrent de la coursive des cabines. Hagard, les pêcheurs de perles et masculés marchaient à petits pas prudents comme des vieillards. Dans leur état, Sol, Elgin et Rome pouvaient à peine bouger. Alors se battre. Ils ne furent pourtant pas inutiles. Dès qu'ils les aperçurent, les Selkas se concentrèrent sur eux. Les voyant approcher, Sol tendit une main, comme s'il croyait avoir affaire à des membres d'équipage. Un des monstres le saisit par le cou, le plaqua contre une cloison et lui posa une main sur le ventre. Puis, d'une seule griffe, il remonta vers la gorge du violeur, lui ouvrant le torse comme s'il coupait du beurre. Ensuite, tel un pêcheur qui vide un poisson, il arracha les entrailles de sa proie, s'en reput, puis confia le cadavre à un autre Selka, qui élargit l'ouverture et dévora le cœur du pêcheur peut-être pas encore tout à fait mort. Elgin subit le même sort. Ouvert en deux, il servit de festin à des Selkas ivres de sang et de chair. Rome tenta de fuir, mais un monstre l'attrapa par derrière et lui fendit le dos, exposant sa colonne vertébrale. Après l'avoir méthodiquement détaché du reste, il la jeta sur le pont puis laissa tomber le cadavre désarticulé et flasque. Résigné à ne pas pouvoir utiliser sa magie, Nathan dégaina sa belle épée et la brandit pour défier les Selka. Épaule contre épaule, Bannon et lui chargèrent les monstres. Devenue une machine à tuer, si elle n'avait pas su que c'était lui, Nietzsche ne l'aurait pas reconnu, le doux jeune homme abattait son arme comme un forestier qui se ferait un chemin à la machette dans des broussailles. Le sorcier se mit vite dans la peau d'un escrimeur. Tombant son manteau huilé pour être libre de ses mouvements, il décrivit un arc de cercle gracieux avec sa lame et égorgea un Selka dont la tête se détacha à demi du torse. Puis, le vieil homme se retourna et, dans la foulée, traversa la poitrine d'un autre monstre. Alors qu'elle récupérait après avoir invoqué du feu de sorcier, Nietzsche vit que deux Selka approchaient d'elle. Avec le peu d'énergie qui lui restait, elle généra une barrière d'air qui repoussa les monstres sans être assez puissante pour les envoyer par-dessus bord. Les créatures repassèrent à l'attaque. Paniqué, un marin grimpa dans le gréement pour échapper au carnage. Quand il eut atteint la fusée de vergue du mât principal, il se réfugia sur le perchoir de la vigie. Des Selka le repérèrent et grimpèrent à leur tour. Avec un bruit assourdissant, un éclair naturel frappa le mât, le fendit en deux et expédia le pauvre matelot dans le vide. Tué sur le coup par la foudre, il s'écrasa dans l'eau et coula comme une pierre. L'éclair sema aussi la panique parmi les Selka. Alors qu'il tentait de se raccrocher au cordage, le mât principal s'écroula sur le gréement et entraîna dans sa chute le mât de misaine. Tétanisé devant ce désastre, Nathan ne sentit pas qu'un Selka approchait dans son dos. Le ceinturant, la créature déchira sa belle chemise neuve. Vif comme l'éclair, Bannon enfonça sa lame dans le flanc du Selka, le força à s'écarter du sorcier, lui déchira les entrailles et dégagea son épée.
« Merci, fiston !»
souffla Nathan impressionné.
« J'ai eu un bon professeur !»
Un peu remise, Nietzsche invoqua une deuxième boule de feu de sorcier. Hélas, comprit-elle, ça ne suffirait pas.
« Douce mère, la mère !»
gémit Bannon, les yeux rivés sur la proie.
« Il en arrive toujours !»